Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce mardi 7 septembre. Avec vous, Jean-Noël Ducasse et Christophe Mallet pour vous accompagner au sommaire, le journal, les sports, le journal de la semaine en France. On rendra aussi hommage à Jean-Paul Belmondo, Bébel, qui nous a quittés hier à l'âge de 88 ans. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Les grands titres de ce 7 septembre, la Nouvelle-Galles du Sud enregistre 1220 nouveaux cas de Covid-19 et 8 décès ce mardi. Matthew Guy remplace Michael O'Brien en tant que chef du Parti libéral du Victoria. Et comme je le disais en titre, la disparition de Jean-Paul Belmondo, un géant du cinéma français à l'âge de 88 ans. La Nouvelle-Galles du Sud a enregistré aujourd'hui 1220 nouveaux cas locaux de Covid-19 et 8 décès. Gladys Berejiklian, qui dirige la Nouvelle-Galles du Sud, se dit satisfaite des résultats du taux de vaccination dans certaines parties de l'État.
Parramatta is over 81%, Canberra Bankstown is over 76% and Dubbo is over 77%. So we're really pleased with those results and we just ask people to keep coming forward. And of course our message is don't be left behind. Obviously when these local government areas are in the high 80s and the state average is 74%, it means some areas in the state are falling behind and we want to make sure we have targeted strategies in those communities. So don't be left behind when we start opening up.
Le Victoria a enregistré 246 nouveaux cas de Covid-19 acquis localement pour la deuxième journée consécutive. 90 cas sont liés à des épidémies connues et 156 cas mystères à ce stade. Pendant ce temps, un blitz de vaccination Covid-19 des étudiants de Year 12 a commencé. Les réservations Pfizer ont été ouvertes pour les étudiants de la 12e année, les enseignants et les superviseurs d'examen depuis hier, lundi 6 septembre. On écoute le chef du Victoria, Daniel Andrews.
We've got a few extra people on the call centre today, and hopefully that's smoothed out a little bit. But of course, when you've got 50, 60,000 people wanting something all at the one time, that can make it challenging for even an expanded system.
Le Queensland n'a signalé aucun nouveau cas local de Covid-19 ce mardi. Plus de 53% des habitants du Queensland ont reçu leur première dose de vaccin. 34,7% des habitants du Queensland éligibles sont complètement vaccinés. La dirigeante de l'État, Anastasia Palaszczuk, a déclaré qu'il y aurait plus de cliniques pop-up dans l'État et de sensibilisation communautaire.
Queensland Health currently has about 80 vaccination centres open across the state. Now, over the next 2 months, of course, we mentioned that we've got a new mass vaccination centre starting up in Cairns. We're going to have mobile pop-up clinics. We're going to have that mobile van that started in Yarrabilba, an advertising campaign encouraging Queenslanders to get vaccinated.
Un sixième chauffeur de camion atteint de Covid-19 a été détecté en Australie du Sud. Les sites d'exposition vont être annoncés plus tard dans la journée ce mardi. Les autorités affirment que l'homme a voyagé à travers l'État pour livrer du bois jeudi et vendredi de la semaine dernière. Le chef de l'État, Stephen Marshall, a déclaré que l'accent est mis actuellement sur la mise à disposition de tant de vaccins dans les bras des habitants de l'État. Stephen Marshall déclare qu'il envisage de faire vacciner deux fois les chauffeurs de camions de l'État. Il a qualifié le Covid-19 comme la maladie des non-vaccinés.
As we get these additional doses, we're opening up more capacity. 42 stations, up to 96 stations here, 35,000 additional appointments at Wavell between today and the middle of October. So there's plenty of other opportunities for people to get themselves vaccinated. Jump online, book an appointment, come down here to Wavell, get yourself vaccinated.
Le chef de Western Australia, Mark McGowan, a déclaré qu'il était temps pour que son État et d'autres États obtiennent leur part des doses de vaccins COVID, alors que Mark McGowan soutenait auparavant l'envoi de vaccins supplémentaires en Nouvelle-Galles du Sud. Il appelle maintenant le gouvernement fédéral à s'assurer que les autres États ont des doses de Pfizer. La Nouvelle-Galles du Sud reçoit 12% de plus que sa part de vaccins par habitant. En Western Australia, le déploiement des vaccins traîne derrière la nation, avec 35,4% de la population de l'État entièrement vaccinée. Matthew Guy a été élu chef du Parti libéral du Victoria et il remplace Michael O'Brien. Les députés ont voté 20 à 11 pour changer de leadership lors d'une réunion ce mardi matin. Matthew Guy a conduit les libéraux à une défaite électorale en 2018 et il déclare que c'est son travail de les conduire aux prochaines élections dans 14 mois, soit en novembre de 2022.
Not just for lockdowns, but for recovery, to be positive about our state. Victoria's best days are ahead of it, not behind it, and we should be focused on that. We should be focused on unifying our state, on growing our state together, not on dividing people, not on dividing Victorians in the language of division. It's time for the language of healing, the language of one Victoria to move forward.
En Afrique maintenant, en Guinée, suite du coup d'état militaire dimanche qui a renversé le président Alpha Condé, il était à la tête du pays depuis plus de 10 ans, c'est le colonel Mamadi Doumbouya qui a pris le pouvoir. Le reportage maintenant de Mouktar Ba pour Radio France Internationale.
Le colonel Doumbouya est arrivé au palais du peuple ce lundi à la mi-journée sous les ovations nourries de milliers de personnes massées derrière les grilles du siège du Parlement. Son allocution a duré 5 minutes, allocution dans laquelle le nouvel homme fort de Conakry a dit d'emblée regretter, je cite, le comportement peu honorable de ses élites ces derniers temps et d'ajouter devant un océan de bérets rouges que la situation d'injustice, de népotisme et de privation de libertés individuelles et collectives était devenue monnaie courante. Drapeau guinéen sur les épaules, le colonel Doumbouya a déclaré avoir pris le pouvoir pour éviter que le pays ne tombe dans le gouffre. Pour assurer davantage les Guinéens, le leader du Comité national de redressement et de développement a dit placer la transition sous le signe de l'espérance et d'une Guinée nouvelle et réconciliée avec elle-même. Il n'y aura aucun esprit de haine ni de vengeance et de chasse aux sorcières, a martelé le dirigeant guinéen, s'empressant d'ajouter « La justice sera la boussole qui orientera chaque citoyen guinéen ». Il n'a toutefois pas indiqué combien de temps durerait cette transition, ni quelles en seraient les modalités.
En Afghanistan, les talibans affirment contrôler la vallée du Panjshir. C'est une première car cette région n'est jamais tombée, ni au temps de l'invasion soviétique, ni même lorsque les talibans étaient au pouvoir durant les années 90. Christophe Paget, RFI.
Avec cette victoire, notre pays est désormais complètement sorti du marasme de la guerre, affirment les talibans dans un communiqué. Les nouveaux maîtres de Kaboul ont posté sur Twitter une vidéo les montrant hissant leur drapeau dans ce qu'ils présentent comme la capitale provinciale du Panjshir. Cette vallée difficile d'accès, 80 km au nord de Kaboul, est, ou était, on ne sait pas encore, le dernier foyer d'opposition armée aux talibans avec le FNR, le Front National de Résistance, dirigé par le fils du commandant Massoud. Les affirmations des talibans selon lesquelles ils occupent la région sont mensongères, affirme aujourd'hui le FNR, qui promet que la lutte contre les talibans et leurs partenaires continuera. Et Ahmad Massoud d'appeler à un soulèvement national, où que vous soyez, dedans ou en dehors du pays. La nuit dernière, le FNR avait d'abord proposé un cessez-le-feu, après avoir, semble-t-il, subi de lourdes pertes pendant le week-end, parmi lesquelles la mort de leur porte-parole et d'un général. Cette annonce par les talibans d'une victoire au Panjshir, et donc de leur contrôle total du pays, intervient alors que l'on attend toujours la formation de leur gouvernement. Les talibans qui ont, ce matin, appelé les anciens membres de l'armée afghane à les rejoindre dans leur nouveau service de sécurité.
Jean-Paul Belmondo, un géant du cinéma français, disparaît à l'âge de 88 ans. Le monde entier lui rend hommage. Et tout à l'heure, dans le programme, nous vous présenterons des extraits des hommages des émissions de Radio France Internationale, notre radio partenaire. Mais pour l'instant, son portrait par Muriel Mahalouf.
Sa décontraction légendaire, sa gouaille et son charisme marqueront à jamais le cinéma français. Né en 1933 à Neuilly-sur-Seine, le jeune Belmondo grandit dans une famille d'artistes. Il intègre le conservatoire dans les années 50 où il rencontre Jean Rochefort, Claude Riche, Jean-Pierre Marielle, autant d'amis pour la vie. Après des petits rôles au théâtre et au cinéma, c'est Jean-Luc Godard qui lance véritablement sa carrière en l'engageant dans À bout de souffle. Une vedette est née. Il devient avec Alain Delon l'un des deux monstres sacrés du cinéma, avec lequel il joue nombre de duos mémorables, notamment dans Borsalino. Il enchaîne alors les rôles entre Titi Parisien à la Gabin, Pitre à la Fernandelle ou Jeune Premier. Acteur emblématique de la Nouvelle Vague, il se tourne vite vers les comédies et les films d'aventure où il exécute lui-même les cascades. Multi-récompensé, Palme d'honneur en 2011 à Cannes, Lion d'or à Venise en 2016 et à l'honneur des Césars en 2017, où Bébel plaisantait encore sur sa sale gueule, une canne à la main.
Et puis Jean-Paul Belmondo était très connu aux États-Unis où en 1966 déjà il était une icône des cinéphiles américains. Reportage de Guillaume Nodin sur place pour RFI.
Le nouveau style de héros de film, sexy, fou et cool. Le visage de Jean-Paul Belmondo occupe toute la une du magazine américain Life en ce 11 novembre 1966. Il n'est encore que l'acteur d'un seul film, mais il marque déjà les esprits des cinéphiles américains. En 2013, au festival Lumière de Lyon, le réalisateur de Hollywood, Quentin Tarantino, s'en souvenait.
In the opening of Jean-Luc Godard's Breathless.
Au début de À bout de souffle de Jean-Luc Godard, on peut voir un jeune acteur dans son premier film se tenir devant une affiche avec une star de cinéma. La star, c'est Humphrey Bogart. Et le jeune qui le regarde, en espérant être à sa place, c'est Jean-Paul Belmondo. Dans les 20 années qui ont suivi, quand les étudiants et les cinéphiles accrochaient un poster au mur, c'était un poster de Jean-Paul Belmondo.
Of Jean-Paul Belmondo.
Et plus de 45 ans après la une de Life, Quentin Tarantino, grand amateur de Nouvelle Vague, concluait comme le magazine que le nom de Jean-Paul Belmondo était tout simplement synonyme de supercoolitude.
On passe à la météo pour ce mardi en Australie. À Perth, il fera 28 degrés. Adélaïde, 17. Melbourne, 17. Hobart, 13. Canberra, 19. Sydney, 22. Brisbane, 24. Cairns, 27. Darwin, 35. Et à Alice Springs, maximale de 22 degrés. Un rappel des grands titres de ce mardi 7 septembre. La Nouvelle-Galles du Sud enregistre 1220 nouveaux cas de Covid-19 et 8 décès ce mardi. Matthew Guy remplace Michael O'Brien en tant que chef du Parti libéral du Victoria. Voilà, fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Et journal des sports en ce mardi et on commence eh bien, avec du football et la mauvaise passe de l'équipe de France, championne du monde. Donc les Bleus qui en phase de qualification de Coupe du Monde eh bien, ont fait match nul. Retour sur donc, la mauvaise passe des Bleus depuis l'Euro avec Cédric De Oliveira.
Depuis quelques semaines, le scénario est à peu près toujours le même pour les Bleus. Par suffisance ou tout simplement par manque de maîtrise, ils concèdent l'ouverture du score avant de revenir dans le match. Nouvelle illustration contre l'Ukraine donc. Et malgré l'égalisation d'Anthony Martial, Didier Deschamps aimerait bien que ses hommes n'aient plus à courir après le score.
Réagir, c'est toujours bien. Il vaut mieux agir et prendre les devants. Après, on est dans une situation qui est moins heureuse, qui est un peu plus compliquée. La réaction est là. C'est important, mais voilà, on a des événements qui ne sont pas favorables. Ça peut arriver dans certaines périodes. Je préférerais, et on va tout faire pour inverser cette tendance.
5 matchs nuls consécutifs, la série commence à s'étirer. Ça n'était d'ailleurs jamais arrivé dans l'histoire de l'équipe de France. Et ça aurait pu être pire, tant les Bleus ont livré face à l'Ukraine une première mi-temps affligeante. 45 premières minutes pénibles pour des joueurs qui restent optimistes, à l'image du défenseur Léo Dubois.
J'ai pas forcément d'explication pour l'instant, mais c'est clair qu'en première mi-temps, on a manqué de mouvement. Je pense que dans les duels, ils étaient plus agressifs que nous. L'essentiel, c'est qu'on ait su réagir en deuxième mi-temps. Et ça a été fait. On va discuter entre nous et voilà. Mais je suis confiant, on va réussir à le faire.
Les joueurs préfèrent donc s'en remettre à la méthode Coué. Mais depuis l'Euro et leur élimination surprise face à la Suisse, quelque chose semble s'être envolé. Ce manque de cohésion collective qui avait permis à la France d'être championne du monde en Russie en 2018, une époque désormais révolue pour Didier Deschamps.
C'était il y a 3 ans, mais ce sont pas les mêmes joueurs non plus. Si vous regardez sur l'équipe d'il y a 3 ans, les 11 titulaires, il y a Hugo, il y a Paul et Antoine. Ce qui ne veut pas dire que les joueurs qui sont là aujourd'hui ne sont pas au même niveau. Mais 3 ans au niveau international dans le football, c'est beaucoup. Il y a eu beaucoup de changements. Je pense que j'ai jamais effectué autant de rappels de joueurs que pendant un tel stage. Après, ceux qui sont là, j'ai confiance en eux.
Cédric De Oliveira. Allez, on continue sur le football et l'annulation du match Brésil-Argentine. Match annulé, cause de Covid oblige. Sofiane Namandian.
La revanche de la dernière finale de la Copa América n'aura duré que 7 minutes. Alors que les deux équipes débutaient à peine le match, un membre de l'agence sanitaire brésilienne est entré sur le terrain pour interrompre le match. La raison, la présence sur la pelouse de 4 joueurs argentins qui auraient omis de signaler leur séjour au Royaume-Uni durant les 14 derniers jours. Il s'agit de Giovanni Lo Celso, Emiliano Martinez, Emiliano Buendia et Cristian Romero, tous les 4 évoluant dans le championnat anglais et titulaire face au Brésil. Les Argentins sont rentrés au vestiaire en signe de protestation, précipitant ainsi la fin du match dans la confusion la plus totale. Une ordonnance du 23 juin dernier interdit l'entrée sur le territoire brésilien à toute personne étrangère venue du Royaume-Uni. Et quelques heures avant le début du match, l'Ansiva, via un communiqué, avait vivement recommandé aux 4 joueurs de respecter immédiatement une quarantaine, chose qui n'a pas été faite. La Confédération sud-américaine de football n'a pas encore communiqué sur les suites de cet événement.
Et voilà donc pour le football. On parle maintenant eh bien, des Jeux paralympiques qui sont terminés il y a quelques jours. Et retour sur la belle performance des Français, et notamment dans un sport, le cyclisme, le paracyclisme. Et la performance d'Alexandre Lauté au micro d'Antoine Grenier.
Dernière émotion tokyoïde pour Alexandre Lauté, le jeune cycliste de 20 ans portait le drapeau tricolore lors de la cérémonie de clôture. Récompense de ses 4 médailles glanées, une en or, une en argent et 2 en bronze. Alexandre Lauté, révélation française de ces jeux, les premiers de sa carrière.
Je suis venu ici, je venais de ma petite campagne bretonne, voilà, où je connaissais juste ma famille, mes amis et ceux de ma commune. Et là, dire que je suis une révélation française, je sais pas quoi dire, j'ai pas les mots.
Mais vous avez ramené 4 médailles de ses premiers Jeux paralympiques et de l'or aussi, ça compte j'imagine pour ce début de carrière.
Oui bien sûr, voilà, je me suis vraiment préparé pour ça, donc c'est vraiment l'aboutissement d'un travail avec toute mon équipe, que ce soit l'entraîneur, la préparatrice mentale, la préparation physique, tout le staff médical, donc c'est pas forcément que ma médaille aussi, c'est tout un groupe. Ça leur prouve aussi qu'on a vraiment bien travaillé ensemble et j'espère que ça continuera ainsi.
Quelle image vous garderez de ces Jeux?
L'image que je retiendrai, voilà, c'est tout un collectif soudé, voilà, on s'entraînait surtout avec mon coéquipier et ami Dorian Foulon. Je pense que l'image que je retiendrai, c'est celle à la piste où lui il gagne et moi j'arrive dans ses bras à l'arrivée.
Alors le bilan de ces Jeux paralympiques avec le chef de la délégation française donc à ces Jeux paralympiques, Jean Minier.
C'est un franc succès, assez inattendu. En fait, on savait que cette équipe était conquérante, que les athlètes étaient bien préparés. On ignorait un peu l'état de la concurrence. On l'a trouvé à la hauteur de ce qu'on attendait, c'est-à-dire très très affûté aussi. Hein. Il y a eu aucune médaille facile, à part peut-être celle de Alexis en quinquant. Je ne sais pas qu'elle soit facile, mais lui, il était vraiment ultra dominateur en triathlon. Mais sinon, vraiment, il a fallu aller chercher l'ensemble des médailles. Je crois que il y a eu une très belle dynamique collective dans cette équipe avec certaines révélations, hein, comme Alexandre Léauté qui s'est révélé au grand public comme étant un cycliste d'exception.
Le bilan chiffré, hein, vous aviez fixé un objectif un peu théorique en partant de Rio aussi et de ses 28 médailles, vous l'aviez quantifié à 35, il est largement dépassé.
On avait fixé un objectif qui était entre les 28 médailles de Rio et les 42 de Londres, un objectif qui nous paraissait cohérent par rapport à ce qu'on connaissait des résultats dans les 2-3 dernières années sur les compétitions de référence qui n'étaient pas très nombreuses. On n'a pas eu beaucoup de compétitions sur lesquelles s'appuyer. Cet objectif, il est largement dépassé. On a atteint l'objectif de médaille presque que nous visions à Paris. Maintenant, il va falloir le rehausser. Hein. À Paris, il va falloir viser 60 médailles. On manque de médailles d'or, mais bon, après, la couleur des médailles, elle est, comme je vous le disais, c'était tellement des combats de haute lutte que parfois, ça tombait à pas grand-chose du mauvais côté. Donc toutes les planètes sont alignées pour que cette équipe de France, elle arrive de façon très ambitieuse aux Jeux de Paris à la maison pour faire un succès historique. C'est tout ce qu'on leur souhaite.
Vous aviez dit aux athlètes qu'il y aurait des surprises dans ces Jeux, notamment parce qu'il y avait eu très peu de confrontations entre eux en raison du Covid. Est-ce qu'il y en a eu des bonnes, des mauvaises et lesquelles?
Dans les bonnes surprises, ce sont notamment certains Français qui se sont révélés. On parlait d'Alexandre Léauté qui s'est vraiment révélé comme étant très très fort. Sandrine Martinet, elle était attendue pour gagner et elle n'a pas gagné, elle est tombée sur plus forte qu'elle. Elle l'a d'ailleurs dit de façon très très honnête à l'issue de son combat en judo. On attendait les Chinois à ce niveau-là, on n'attendait sans doute pas les Pays-Bas à ce niveau-là qui ont vraiment affiché là une équipe très très performante. On n'est finalement pas aussi surpris qu'on le pensait. Tous les pays, a priori, dans ce contexte très particulier, ont réussi à s'entraîner pour amener leur niveau au plus haut possible pour ces Jeux paralympiques, comme c'est finalement d'habitude hein, aux Jeux paralympiques, le niveau est toujours beaucoup plus dense que lors des championnats du monde. Et je pense que cette densité-là, elle doit nous inciter à la prudence dans la perspective de Paris. Il faut vraiment pas se relâcher parce que on sait que le niveau sera encore plus fort, que le niveau sera encore plus dense. Et donc, il va falloir que les athlètes français, surtout, ne se relâchent pas et soient à la hauteur de l'enjeu qui sera très très fort à Paris, bien sûr.
Voilà donc pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. A tout de suite.
Vous écoutez le programme en français et dans 36 secondes, je repasse l'antenne à mon collègue Christophe qui sera en compagnie d'Émile Matasso pour nous présenter le journal de la semaine en France.
Est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/french ou téléchargez l'application SBS Radio.
Comme chaque semaine, comme chaque mardi, place à présent à l'actualité française. Et pour nous en parler, nous sommes en ligne depuis Paris avec Émile Matasso. Bonjour Émile.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Alors nous revenons sur le déplacement à Marseille du président de la République.
Oui, Emmanuel Macron a passé 3 jours à Marseille la semaine dernière, 48 heures du 1er au 3 septembre, 3 jours dans la cité phocéenne, Marseille, la grande ville du sud de la France, et c'est près de 900 000 habitants rien que pour la ville, et le double hein, si on englobe l'agglomération, tous les alentours. Le président de la République est venu détailler à Marseille toute une série de mesures de la rénovation des logements aux écoles, en passant par les transports et la sécurité. Des mesures présentées comme des mesures d'urgence, mais qui se placent, selon l'Élysée, dans une réponse globale, réponse de fond sur le long terme, donc à la fois urgence et long terme. Durant ces 3 jours, Emmanuel Macron a donc dévoilé son plan pour Marseille, le plan de l'État, l'ensemble des annonces qui a été faite à un coût hein, chiffré, 1 milliard 500 millions d'euros, un plan baptisé Marseille en grand. Petit clin d'œil, le discours du chef de l'État jeudi après-midi au palais du Pharo, il a été perturbé par la pluie et à la fin du discours, il n'y avait plus de son. Hein, mais il a réussi à passer son message, Emmanuel Macron. « Je ne viens pas faire de promesses, je viens ici prendre des engagements », a-t-il lancé. « Le devoir de la nation est d'être aux côtés des Marseillaises et des Marseillais. » Il a mis en avant l'urgence sécuritaire, sociale, sanitaire. Ce déplacement, au-delà des centaines de millions qui ont été promis. Ce déplacement est plus que symbolique. Hein. Nous allons y revenir à 8 mois de la prochaine élection présidentielle. Emmanuel Macron, ancien banquier chez Rothschild, il incarne pour beaucoup en province et dans le sud, comme à Marseille, le parisianisme dans toute sa splendeur, même s'il jouit d'une très bonne cote de popularité dans l'opinion. 40% environ d'opinion favorable à l'échelle du pays à 8 mois de l'élection présidentielle. C'est plutôt confortable, mais il n'est pas parvenu depuis le début de son quinquennat à se défaire de cette image, une certaine condescendance, une incapacité à nouer une relation forte avec ces millions de Français qui ne font pas partie des élites. Preuve qu'Emmanuel Macron a conscience de ce déficit d'image. Il a promis dans ce discours marseillais « Ce n'est pas le plan de Paris, ce doit être l'ambition des Marseillaises et des Marseillais ». Emmanuel Macron qui s'est engagé à revenir à Marseille dès le mois prochain, dès le mois d'octobre et en février 2022 pour, je cite, « rendre compte de ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait ».
Dans le détail, en quoi consiste ce plan d'1,5 milliard d'euros donc pour Marseille ?
Bien, il y a plusieurs axes. Axe sécuritaire, déjà, hein, sachant que depuis des années, Marseille doit vivre avec les homicides, les règlements de compte entre bandes et gangs diverses, avec en arrière-plan le trafic de drogue. Pas moins de 15 personnes ont été tuées de la sorte hein, depuis le début de l'année, des victimes très jeunes, mineures parfois. On se croirait dans des séries TV des plus sordides, avec des armes de guerre, des vengeances et un sentiment d'impuissance à la fois de la population et de la police. Emmanuel Macron a donc annoncé que 200 policiers supplémentaires seront affectés à Marseille en 2022, en plus donc des 100 déjà arrivés pour épauler les forces de l'ordre en cette année 2021. Un nouvel hôtel de police va être construit pour un coût de 150 millions d'euros. Les équipements des policiers améliorés, de même que 220 véhicules qui devraient être achetés et mis à la disposition des forces de l'ordre. Toujours sous cet angle sécuritaire, 500 caméras de vidéosurveillance vont être déployés dans les quartiers nord de la ville. C'est une politique de harcèlement des trafics qu'il nous faut conduire, a martelé le chef de l'État. Autre volet éducatif sur le terrain. Emmanuel Macron s'est engagé avec cette promesse donc de 30 éducateurs et 30 médiateurs supplémentaires qui vont être déployés dans les quartiers avec à l'appui une aide de 17 millions d'euros pour les associations. La question des logements a été abordée également. De nombreux quartiers n'ont pas été rénovées depuis des décennies et les logements sont dans un état d'insalubrité très avancé. 10 000 nouveaux logements seront rénovés dans les 15 prochaines années, a annoncé le chef de l'État avec ces mots. La lutte contre l'habitat indigne doit s'intensifier. Les chantiers doivent s'engager immédiatement. De l'argent et des promesses encore pour rénover l'hôpital Nord et la Timone. 169 millions d'euros seront débloqués dans le cadre du plan présenté. Les transports, on ne peut pas avoir la deuxième ville de France aussi embouteillée, dixit Emmanuel Macron qui a promis 1 milliard pour les transports, de l'automatisation du métro marseillais à la création de nouvelles lignes de tramway en passant par la modernisation du port de Marseille. On peut citer encore un plan d'aide pour la rénovation des écoles, sachant que près de 150 écoles ont été identifiées comme délabrées. Emmanuel Macron veut faire de Marseille un laboratoire en la matière, en matière d'éducation, de pédagogie, avec dans les écoles, les collèges, les lycées, des projets pédagogiques spécifiques qui seront lancés donc dans des établissements des quartiers les plus difficiles. On le voit, en tout cas un plan très très ambitieux, 1,5 milliard pour Marseille, qui justifiait ces 3 jours de déplacement du chef de l'État.
Alors ce déplacement à Marseille d'Emmanuel Macron, il n'est pas néanmoins sans arrière-pensée politique.
Oui, et les opposants au président, que ce soit à Marseille ou à l'échelle nationale, en vue de l'élection présidentielle d'avril prochain, 2022, les opposants à Emmanuel Macron n'ont pas manqué de souligner l'opportunité d'un tel déplacement au moment où tout reprend après la période estivale. Il était là à Marseille le 2 septembre, jour de la rentrée scolaire, sachant qu'Emmanuel Macron, même s'il ne l'a pas encore formulé, sera, oui, sauf accident, candidat à sa propre réélection à cette présidentielle de 2022. Il est en campagne électorale qui ne dit pas son nom depuis plusieurs mois. Déjà, il a entamé au printemps toute une série de déplacements en province, en dehors de Paris, pour, comme on le disait tout à l'heure, eh bien adoucir son image, casser cette image qui lui colle à la peau de l'autorité venue d'en haut, de Paris. Là, à Marseille, il a sorti Emmanuel Macron, qui n'a jamais eu de mandat local. Il n'a pas été député ou conseiller régional, départemental, comme d'autres anciens présidents, les Jacques Chirac, les François Mitterrand, les François Hollande, qui avaient cet ancrage territorial. Non, Emmanuel Macron, il a été, après avoir travaillé à Rothschild, la banque d'affaires, il a été ministre d'économie sous la présidence de François Hollande. Et derrière, il s'est retrouvé président de la République. Il veut tisser ce lien avec les Français. Et dans ce déplacement, eh bien, plusieurs ministres l'accompagnaient. Le quinquennat d'Emmanuel Macron, rappelons-le, qui a été marqué par la défiance de la France d'en bas, les oubliés, les millions de Français qui galèrent au quotidien entre chômage, petit boulot, salaire de misère. Ce mouvement incarné par la révolte des Gilets jaunes, fin 2018, 2019, ces manifestations tous les samedis partout en France. Là, depuis le début d'été, ce sont les anti-vaccins et ceux qui sont opposés au pass sanitaire qui se mobilisent, 200 000 personnes tous les samedis un peu partout en France. Emmanuel Macron sent bien que la colère gronde, la défiance envers Paris. Il ne veut pas laisser ses opposants s'emparer de ce mouvement. Il a donc pris les devants avec ce plan d'aide massif et cette présence à Marseille, la deuxième ville de France. Le président de la République veut montrer qu'il n'oublie, qu'il ne délaisse personne et aucun territoire. Et il a aussi renvoyé, lors de ce déplacement, les élus locaux, les Marseillais, à leur responsabilité, avec ces mots, faisant allusion au passé. « Vous avez entendu beaucoup de discours et reçu beaucoup de chèques. Ils ont parfois été faits et mal utilisés. Je veux, a asséné le chef de l'État, je veux que ces promesses deviennent des faits. »
Merci, Émile, d'avoir décrypté l'actus pour nous cette semaine.
Merci, à bientôt.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Cet hommage à Jean-Paul Belmondo, je vous propose maintenant quelques répliques de Bébel lui-même.
Pas les cons, tout va bien. Si vous faites les cons, tout va mal. un aventurier, c'est un type qui n'est heureux que quand il nage dans les emmerdements. Alors d'accord, je suis un aventurier.
Monsieur Hinault, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre!
Le meilleur moyen de faire croire que tu connais tout, c'est de jamais avoir l'air étonné. T'as compris ? Parce que toi, tu as souvent l'air étonné, ton défaut. Tu vois ?
Oui.
Bon, on va faire un petit test. Je vais te dire deux, trois choses étonnantes comme ça, mais qui ne devront pas t'étonner. T'es prêt ? Tu es bien concentré ?
Oui, bien.
Tu sais que ton père est... T'es avec le petit pompiste avant?
Je vous accompagne. Faudrait tout de même qu'on signale à Minos que ça devient de plus en plus difficile de se montrer dans la touche sexuelle.
Et on partage toujours la merde, jamais le pognon.
Et voilà donc l'hommage à Jean-Paul Belmondo qui nous a quittés hier à l'âge de 88 ans. Et en fin d'émission, je passe l'antenne à mon collègue Bertrand qui est avec Maël Furedi de l'Australian Bureau of Statistics qui va nous expliquer comment vous pouvez éviter de payer une amende qui s'élève jusqu'à 200$ par jour si vous avez raté l'échéance du recensement du 10 août dernier.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
J'ai le plaisir de parler à Maëlle Furedi, une franco-australienne qui travaille au Bureau australien des statistiques. Bonjour Maëlle.
Bonjour Bertrand, merci de me recevoir une seconde fois pour pouvoir discuter un peu plus du recensement de 2021.
Oui, donc la dernière fois on s'était parlé, c'était en marge de ce recensement, quelques jours avant la date fatidique, c'était le 10 août. Bien, le 10 août s'est passé, mais certaines personnes ont oublié de remplir leurs devoirs civiques et d'autres n'ont tout simplement pas eu la possibilité de le faire. Est-ce trop tard?
D'abord, j'aimerais remercier toutes personnes qui ont déjà complété leur recensement. Mais si vous ne l'avez pas encore fait, il n'est pas trop tard. Et je vous encourage à le faire dès que possible. Toute réponse compte. Donc le recensement, il nous permet de planifier des services indispensables en éducation, transport, santé et infrastructure. Et aussi nous permet au gouvernement de décider où iront des milliards de dollars. Donc il est important de le compléter. Pour ceux qui n'ont pas encore soumis leur réponse, allez sur notre site aujourd'hui, juste en cherchant en ligne Census 2021 et complétez votre recensement. Mais si vous n'avez pas reçu ou perdu votre numéro de recensement, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez compléter votre recensement en sélectionnant l'option « Obtenir un numéro de recensement » ou en commandant un formulaire papier sur notre site ou en appelant le 1800-512-441.
Et il y a des gens qui se demandent s'il faut compter tout le monde, y compris les bébés. Ils croient que les bébés, ça ne compte pas. Je ne sais pas pourquoi ils se disent comme ça. Est-ce que c'est vraiment important de compter tout le monde, y compris les bébés?
Oui, donc il est important de compter toute personne qui était chez vous le soir du recensement. Cela inclut la famille, les amis de passage, les enfants et les bébés. Le compte des enfants et des bébés est essentiel et nous aide à planifier des services en éducation tels que la construction de nouvelles écoles ou de nouvelles crèches.
Donc il est vraiment important. Et aussi, il y a certaines personnes qui n'étaient pas à domicile ou qui avaient aussi des invités sur place, des gens qui normalement n'habitent pas sur le lieu, mais qui ce soir-là passaient la nuit chez eux. Est-ce que c'est important de compter ces personnes ou qu'est-ce qu'on fait dans ce type de situation?
Il est important de compter toute personne, même si c'était des amis de passage ou de la famille de passage qui étaient chez vous ce soir-là, donc le 10 août.
Pour revenir sur la date fatidique du 8 août qui est déjà passée, nous sommes déjà plus de deux semaines après. Qu'est-ce qu'on risque si on ne remplit pas ce devoir civique?
D'abord, j'aimerais vous rappeler l'importance du recensement. Donc, il permet d'identifier les caractéristiques de la population et de planifier les petits et les grands projets qui nous concernent. Et il a vraiment une véritable influence sur le futur de l'Australie. Mais le recensement est obligatoire et des pénalités peuvent être appliquées. Et nous faisons tout possible pour éviter cela. Nous avons déjà envoyé deux lettres de rappel et, où possible, des fonctionnaires visiteront les foyers qui n'ont pas encore rempli leur recensement.
Et ceux qui n'ont pas accès aux services en ligne ou qui ne sont pas, je dirais, il y a des gens, personnes âgées notamment, qui ne sont pas computer literate, comme on dit en anglais, qui ne peuvent pas remplir ces formulaires, est-ce que les aides sont toujours disponibles? Je sais que normalement, on peut les aider, mais est-ce que les aides sont toujours disponibles, même avec tant de retard accumulé?
Oui, donc les aides sont toujours possibles s'il n'y a pas de restrictions Covid. Donc il y a des aides dans des lieux publics tels que des bibliothèques où des gens viendront frapper à votre porte. Mais autrement, je vous incite à appeler notre centre de contact au 1-800-512-441 pour parler avec quelqu'un en anglais. Mais si vous avez besoin d'aide en français, vous pouvez aussi appeler le service de traduction et d'interprétation au 131-450 pour parler avec quelqu'un en français. Autrement, n'hésitez pas à demander de l'aide auprès de membres de votre famille ou de vos amis.
Donc, on doit rappeler qu'il n'est pas très tard, même si la date limite est déjà dépassée, il n'est vraiment pas très tard. Ils peuvent encore éviter de payer une amende. À combien s'élèverait l'amende si jamais il y aurait des retardataires qui malgré tous ces rappels, n'arrivent pas ou sont empêchés?
Donc, vous pouvez recevoir une amende de $222 par jour si vous ne complétez pas votre recensement. Mais nous faisons le plus que possible en sorte d'éviter cela. Notre rôle est de rappeler aux gens de participer et de les assister si nécessaire.
D'accord, voilà, on passera le message et espérons que les gens ne vont pas se faire surprendre et devoir payer une amende en ces temps qui courent. $200, c'est quand même une petite somme qu'on préférerait dépenser pour soi et non pas en termes d'amende quand même.
Oui, exactement. Et c'est pour cela que nous allons continuer à poster des rappels sur les réseaux sociaux et à envoyer des lettres de rappel aux personnes concernées pour éviter ces amendes.
D'accord. Maëlle Fouredi, en tout cas, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous éclairer de nouveau et de nous préciser ce qu'il faut faire pour éviter des ennuis si on ne remplit pas ses devoirs civiques.
Oui, ben merci beaucoup encore une fois, Bertrand.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Et voilà, bientôt 13h59 sur SBS French. Merci d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous, ce sera jeudi à partir de 13h sur les ondes de Radio SBS. Très belle fin d'après-midi. À très bientôt.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.